revue scientifique le discrédit. Tel est le titre de la Terre au carré pour laquelle nous retrouvons Mathieu Vidard. Vous êtes là, Mathieu?
Oui, Bruno.
On parle aujourd'hui de ce scandale dans le monde de la publication scientifique avec le fiasco autour de l'étude sur l'hydroxychloroquine.
Oui, avec cet exemple qui rentrera sûrement dans les exemples qui seront cités dans les prochaines années pour illustrer donc les dérives qui existent au sein des revues scientifiques. Le grand public le sait peu, mais même les journaux les plus prestigieux ne sont pas à l'abri d'énormes couacs comme celui qui a secoué il y a quelques jours donc The Lancet, l'une des références au sein des revues médicales. Rappelons les faits, le 22 mai dernier, cette revue britannique publiait une étude dite rétrospective qui concluait que la molécule d'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés et qu'elle pouvait même être néfaste. La parution de ce travail a été commentée dans les médias du monde entier avec des répercussions spectaculaires et immédiates puisqu'elle a amené l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à suspendre temporairement tous les essais cliniques avec hydroxychloroquine et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé l'arrêt de son utilisation. Le destin de ce médicament, popularisé par le professeur Didier Raoult, semblait donc scellé et cette nouvelle publication était censée clore les polémiques qui entouraient donc cette molécule depuis le début de la crise sanitaire.
Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu.
Eh bien non, puisque rapidement, des scientifiques ont fait remarquer un certain nombre d'anomalies dans les données en pointant du doigt leur manque de transparence. Et le 4 juin, à peine deux semaines après sa publication, The Lancet retirait donc l'étude après la demande de rétractation de trois de ses auteurs qui avouaient ne pas pouvoir garantir la véracité des données analysées. L'étude est aujourd'hui barrée de la mention « retracted ». Et comme nous allons le voir avec notre invité, ce sont tous les niveaux du système de contrôle de la publication qui ont été défaillants. Cette affaire est loin d'être un cas isolé puisqu'on estime que chaque année, sur plus d'un million d'articles scientifiques publiés, 1 à 2% seraient frauduleux. Ce sont des centaines d'études qui sont retirées donc par les revues spécialisées pour différentes causes qui vont de la falsification au plagiat en passant par de simples erreurs des auteurs. Dans un contexte d'urgence sanitaire, d'impératif de publication et de compétition entre laboratoires, cette fâcheuse aventure est aussi le symptôme d'une course au scoop dont les effets peuvent être catastrophiques dans un domaine comme la santé public. Mais paradoxalement, l'affaire de la publication du Lancet souligne aussi une très bonne réactivité du monde de la recherche, qui est capable, on l'a vu, de réagir très vite en critiquant un travail douteux et en sonnant l'alarme. L'avenir nous dira quand même si la bonne image de la science résistera à ce type de fiasco.
Et pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Martina Knop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicienne, directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez sur cette thématique des publications scientifiques et de la science ouverte. Nous attendons les questions des auditeurs. Il y en a déjà au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Intervenir. Mathieu Vidard, la première question pour vous.
Martina Knop, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer comment une revue aussi réputée que The Lancet en arrive donc à publier un article dont toutes les données n'ont pas été vérifiées par leurs auteurs?
Oui, alors tout à fait. Ben, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction. Effectivement, là, on a l'impression que il y a eu des soucis à tous les niveaux, parce que déjà que sur les auteurs, il y a des auteurs qui n'ont pas pu garantir la véracité des données, en disant même qu'ils n'avaient pas accès aux données, c'est déjà un premier problème. Normalement, dans une publication scientifique, tous les auteurs en sont responsables. Donc tous les auteurs doivent s'assurer que de bien comprendre et de bien avoir donc les bons faits dans cette publication. Puis bien sûr, il y a le processus de relecture par les pairs. Donc l'expertise, un article, une publication avant d'être publié vraiment est toujours relu par des experts du domaine, donc par les pairs qui connaissent bien la thématique, et il y en a au moins deux, voire trois, quatre, et donc déjà, eux aussi, ils auraient dû peut-être mettre en avant leurs doutes, ils l'ont peut-être fait, leurs rapports sont dans ce cas confidentiels et pas accessibles ouvertement, mais c'est l'éditeur de la revue qui prend la décision finale et qui va, lui, ou elle, dire finalement est-ce qu'on accepte cet article. Et donc dans ces trois niveaux, apparemment les alertes n'étaient pas très fortes. Et puis il faut dire aussi, c'est quand même dans un contexte un peu chaud où il y a une course au résultat, il y a une polémique qui a entouré cette molécule, et donc comme vous l'avez remarqué tout à l'heure aussi, c'est dans ce contexte où les uns veulent être plus vite que les autres, il y a une pression qui justement elle était tellement forte que les gens ont ignoré ou peut-être pris moins au sérieux tous les alertes qu'il y a eu tout au long du parcours de cette publi.
À propos de pression, question de Brigitte sur l'appli France Inter. Combien de temps prend la relecture par les pairs habituellement? Et est-ce que là, le délai a été raccourci singulièrement? Et plus largement, d'un projet d'article scientifique à la publication, d'habitude, s'écoule combien de temps?
Alors, deux choses. Entre le projet, donc une fois qu'on a des résultats sur une expérience et qu'on les rédige dans un format qu'on veut, qu'on pense être publiable, bah ça dépend. Normalement, il y a donc un ensemble d'auteurs, donc il faut que tout le monde les relu, soit d'accord. Donc il y a certainement plusieurs semaines, hein, où donc entre le premier brouillon, l'esquisse des résultats et le format défini qu'on envoie à une publication, donc oui, je dirais, il peut y avoir plusieurs semaines. Donc, après, pour la relecture en soi, quand un scientifique travaille vraiment un article et le relit, il faut compter quand même par article au moins une grosse demi-journée. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, ce que les auteurs racontent, comment sont les données et tout ça, il faut quand même prendre une bonne demi-journée. Ça peut être plus long, hein. Il y a des cas où on se dit, ben voilà, il faut aller au fond des choses, il faut lire d'autres articles pour mieux comprendre. Ça peut être plus court dans le cas où il y a des vraies erreurs, quoi. Quand on voit que, ben là, l'hypothèse n'est pas bonne dès le départ, alors bah voilà, ça peut être fait dans une heure ou deux, parce qu'il faut quand même aussi rédiger son rapport. Donc a priori, si on envoie deux rélecteurs ou trois, l'éditeur peut avoir une réponse sous deux ou trois jours, hein.
Patrice au Standard de France Inter, bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien voilà, je voudrais savoir, en raison des frais de fonctionnement qui sont souvent très importants, je me demande si les revues scientifiques peuvent être réellement indépendantes des lobbies. Le problème que vous soulevez est celui de l'honnêteté de la science et l'accès à l'information. Et je crois qu'il y a encore plus grave que ce que vous soulignez par rapport à la confiance dans une revue, c'est lorsqu'une revue issue ouvertement d'un lobby est en situation de monopole pour vanter les mérites de ses activités. Sans entrer dans les détails, je le vois par exemple dans mon département, où une revue issue de l'ANDRA abreuve régulièrement les citoyens d'informations.
ANDRA, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, oui, avec le projet CIGEO. Et donc les citoyens sont abreuvés d'informations unilatérales, avec la bénédiction des autorités, ce qui pose évidemment le problème sur le plan démocratique de la contradiction. Les contradicteurs n'ont pas les mêmes milliers d'euros nécessaires pour cette contradiction, et ce qui prouve une nouvelle fois que notre démocratie est à ce moment-là totalement dévoyée, quoi.
Martine Aknop.
Alors, je vais répondre sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, comme pour toute information, bien sûr, il faut, dans le meilleur des cas, avoir plusieurs sources. Ce n'est pas parce que une source publie une chose que c'est la vérité absolue. C'est le fond même de la science, de se remettre en question, de remettre d'autres en question et de se poser des questions. Est-ce que la science, elle avance comme ça? Et c'est comme ça que le monde de la publication est construite. Donc, même si un article est publié sur une étude, je pense que ça ne suffit pas pour déclencher toute une cascade de décisions après. La controverse va vraiment alimenter la science et va permettre de vraiment avancer.
Julien au Standard de France Inter, non, pas encore. Mathieu Vidard, une question et puis on entendra Julien ensuite.
Oui, est-ce que ce type de raté est fréquent dans le milieu de l'édition scientifique? Parce qu'il y a des chiffres qui circulent, je l'ai donné tout à l'heure, hein, parlant de 1 à 2% d'articles frauduleux finalement, sur une somme assez importante. Il y a plus d'1 400 000 articles, hein, qui sont publiés dans le monde chaque année. Est-ce que donc c'est assez fréquent? Vous êtes d'accord avec ces chiffres, Martine Aknop?
Non, je suis pas complètement d'accord avec ces chiffres, justement. J'allais intervenir là-dessus aussi. Oui. On dit qu'aujourd'hui, on estime à peu près le nombre de rétractions par an de l'ordre de 1500. Sur un ensemble, comme vous avez dit, de 1,5 million, donc ça fait plutôt 0,1% d'articles rétractés. Des articles peuvent être rétractés pour différentes raisons. C'est pas toujours la fraude, hein, donc il peut y avoir des erreurs, bien sûr, il peut y avoir d'autres soucis avec des articles, j'ai même déjà vu que les gens se sont rendus un peu tard, qu'ils voudraient finalement faire un brevet, donc retractent l'article parce qu'il faut pas que l'info soit publiée. Donc, il peut avoir différentes raisons. Donc 0,1%, d'un côté c'est pas beaucoup, de l'autre côté, on peut toujours dire, il y a un millier d'articles par an. C'est vrai que ça peut paraître, ça pourrait paraître beaucoup. C'est ce que je constate, c'est aussi que, bien sûr, que dans les médias, c'est beaucoup repris quand il y a un article retracté. Quand il y a 1000 articles publiés, c'est pas forcément relayé. Donc c'est vrai que ça c'est bien. C'est vrai que bon, là, évidemment, il y a une discussion autour des résultats et c'est nécessaire qu'il y ait cette discussion. Mais je trouve que parfois, on donne trop d'ampleur aussi à ces quelques failles qui existent parce que des scientifiques sont des humains aussi, donc il y a des gens qui peuvent se tromper, même pas dans le but de faire une fraude, mais peut avoir des vraies erreurs et donc ça peut donner lieu à des rétractions également.
Julien au Standard de France Inter, bonjour Julien.
Oui, bonjour, merci à vous.
Merci.
Bonjour, ma question donc concerne ces revues scientifiques, donc on n'entend pas forcément parler dans le domaine public de tous les jours. Quelles sont leurs sources de financement? Est-ce que ce sont des sources publiques? Est-ce que ce sont des fonds privés? Est-ce que ce sont des lobbies éventuellement? Voilà, merci.
Martine Aknob sur cette question.
Oui, alors, justement, c'est un sujet qui est beaucoup discuté aujourd'hui. En général, la plupart des éditeurs aujourd'hui, une grande partie des éditeurs aujourd'hui sont des éditeurs commerciaux et qui sont donc qui vivent sur des paiements d'abonnements ou d'autres frais qui sont faits par le monde académique. Donc c'est-à-dire que le monde académique d'un côté est la première source hein, parce que les chercheurs, les chercheuses écrivent les articles, ils vont faire l'expertise des articles, mais ils vont aussi payer pour pouvoir lire ces articles. Donc c'est un modèle qui n'est pas très favorable à la recherche, notamment à la recherche publique, et donc il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour de la science ouverte. Donc effectivement, l'édition est un métier et l'édition a un coût. Donc ça c'est clair. Il faut pas que et ça c'est les dérives qu'on constate aujourd'hui. Il faut pas qu'on laisse s'installer un système qui a un certain prestige, comme on voit. Il y a des grands journaux multidisciplinaires qui ont une certaine réputation, et puisqu'ils ont cette réputation, ils vont donc facturer les articles très cher. Ouais. Et donc, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, et tant qu'on attache autant d'importance, bien sûr, on paiera des prix trop élevés.
Quand vous parlez de science ouverte, cela signifie quoi ?
Alors, quand on parle de science ouverte, ça peut donc comprendre un certain nombre de choses. Bien sûr, on parlera de rendre les accès libres à tout public, et notamment rendre les accès publics à tous les résultats de la recherche qui sont financés sur les fonds publics, hein, dans une certaine mesure, hein, parce que bien sûr que quand on parle de propriété intellectuelle, quand on parle de brevets, il y a dans la période ou dans la vie d'une recherche, il y a des périodes où on veut fermer pour protéger. Donc, quand on parle de science ouverte, on dit souvent autant ouvert que possible, autant fermé que nécessaire, parce qu'il faut aussi protéger les résultats, les auteurs, les établissements. Mais la science ouverte, ça permet d'offrir les contenus pour que tout le monde ait accès, tout le monde peut discuter. Et puis, ça permet aussi d'avoir d'autres approches. Par exemple, d'ouvrir les expertises d'une publication acceptée. Par exemple, dans le cas où on a parlé pour The Lancet, s'il y avait eu les rapports des référés, donc des experts scientifiques, s'ils étaient en libre accès, on pourrait voir aussi le regard, l'avis des experts sur cette publication et peut-être mieux comprendre où les systèmes ont mal marché. Donc, il y a aujourd'hui, en France et partout dans le monde, vraiment des efforts considérables pour mieux et plus ouvrir la science.
Question d'Anne. Il devient important, dit-elle, que l'on se pose la question de la course à la publication comme facteur prépondérant à la progression de carrière des chercheurs et à l'obtention de financement. Aujourd'hui, le nombre prime sur la qualité, nous dit Anne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Alors, c'est une bonne remarque et effectivement, pendant longtemps, c'était considéré comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une pente où on essaye de vraiment corriger le tir. Il y a beaucoup d'établissements en France et ailleurs qui ont signé la déclaration de San Francisco, qui parle donc d'une évaluation de contenu, de qualité plutôt que de nom de journal ou de nombre de publications. C'est des choses qu'il faut faire, bien sûr, évaluer en lisant 3 publications, ça prend beaucoup plus de temps que évaluer en juste regardant le nombre de publications ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on revoie nos façons d'évaluer, mais ce sont nous, chercheurs, scientifiques aussi, qui sont responsables parce que nous sommes des évaluateurs aussi. Donc, quand on est dans des comités, c'est à nous aussi de faire attention qu'on regarde bien les contenus, mais bien sûr c'est tout un monde, c'est la science, c'est les établissements, c'est les organismes d'évaluation, et donc qu'on arrive à un contexte qui est plus sain et qui ne regarde pas que des noms et des nombres, mais qui regarde vraiment des contenus scientifiques.
Mathieu Vida.
Oui, est-ce que finalement, je le disais un petit peu tout à l'heure, l'affaire du Lancet ne montre pas quand même un aspect positif de la recherche, c'est sa capacité à faire de l'autocritique très rapidement et à réagir précisément à une publication qui a des faiblesses.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. On a quand même vu que il y a des gens assez rapidement qui ont dit mais c'est pas possible, il ne peut y avoir là il y a un problème et donc ça s'est quand même mis en route assez rapidement. Ça montre aussi que justement, c'est bien que les contenus soient ouverts et c'est ce qu'on discute aujourd'hui aussi, c'est d'ouvrir les données. Là, il y avait manifestement un problème de données. Si les données avaient été ouvertes dès le début, je pense que l'alerte aurait été donnée encore plus rapidement. Donc, effectivement, la science, ça se discute parmi des auteurs, parmi d'autres scientifiques. Il faut que ce soit sur la place publique pour qu'il y ait un regard croisé sur des résultats. Et c'est comme ça qu'on peut avancer.
Précision de Véronique qui, si j'en crois son adresse internet qu'elle a laissée sur l'appli Travail à l'INSERM, les revues donnent en général 6 semaines aux reviewers pour rendre leur rapport. Les auteurs ont alors environ 1 mois pour apporter les corrections et compléments demandés et envoyer une version corrigée. Ça, j'imagine que c'est quand on a du temps et pas forcément en période d'urgence comme en ce moment. Martina Knob, je voudrais revenir sur le financement. Vous avez répondu tout à l'heure sur le fait que ces revues étaient payantes, que beaucoup d'universitaires les acheter, les financer. Est-ce qu'elles ont d'autres sources de financement, des labos par exemple?
Alors, oui et non. Alors, il y a aujourd'hui, donc, on est dans un monde de transition où ce qui s'est mis en place, c'est qu'on a un peu, qu'on réduit un peu le modèle d'abonnement, qui normalement un abonnement à une revue qui est payé par une université, un établissement de recherche, et que les éditeurs proposent des modèles où l'auteur paye. Donc, un modèle où, une fois que votre article est accepté, vous payez entre 1000 et 4000 euros par article, donc en tant qu'auteur ou ensemble d'auteurs, et que la publication est ouverte à tout le monde, donc en libre accès.
Dans cette logique, c'est un investissement que vous faites, vous, auteur, en estimant que l'article va vous apporter de la renommée et vous permettre...
Tout à fait. Mais on pense que c'est quand même un système qui biaise énormément la recherche. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'argent n'auront pas de publi et donc n'auront pas d'argent après, quoi. Parce que il faut quand même que... Donc, c'est un système... Donc, le paiement individuel, il est clair que ça ne peut pas être un modèle qui est durable dans le temps. Il faut vraiment que qu'on arrive à trouver, à développer un modèle économique qui paye l'édition, comme j'ai dit initialement. L'édition est un métier, il y a des coûts. Il y a des coûts qu'il faut certainement prendre en charge, mais il faut pas qu'on paye du prestige, il faut pas qu'on paye des choses dont on n'a pas besoin. Donc il faut que ce soit un coût juste et qu'il soit tellement équitable que tous les scientifiques qui ont des résultats qui valent la peine soient publiés et accessibles à tout le monde.
Merci Martina Knop d'avoir répondu à nos questions. Vous qui êtes directrice de recherche au CNRS et travaillez sur cette question des publications scientifiques. Mathieu, on vous retrouve dans pas plus longtemps que 10 minutes pour une rediffusion de la Terre. Mais oui, le temps file.
Absolument.
Quel sujet, vous l'avez en tête ?
Oui, on va parler de la pollution du grand port maritime de Marseille et de ses conséquences pour les riverains, Bruno.